La compagnie des auteurs, c'est parti. En effet, elle est conduite par les indispensables Didier Pinault, Corinne Amart, Anne-Vanessa Prévost et Eva Lesseau, à la réalisation Laurence Millet, à la console Jean-Guilain Meige.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle série en trois volets seulement cette semaine. Nous parlons d'une féministe anti-féministe, d'une marxiste anti-marxiste, d'une réaliste socialiste détestant le réalisme. Oui, nous parlons de Doris Lessing. Doris Lessing, disparue à l'âge de 94 ans le 17 novembre 2013, auteure d'une œuvre monumentale dont émerge en particulier son célèbre roman Le Carnet d'or, livre culte parmi donc les féministes qui l'ont découvert dans les années 70. Et pourtant, Doris Lessing n'était pas féministe, ou en tous les cas pas au sens où on entend ce terme d'habitude. Elle qui déclarait encore en 2005 que les féministes étaient un échec, que le féminisme était un échec car les femmes modernes avaient acquis la liberté de faire ce qui leur plaisait, mais qu'elles se contentaient de chercher un mari et de regarder Sex and the City à la télé. On l'aura compris, Doris Lessing était une femme libre. Cette liberté, elle l'a également mise en œuvre dans l'expérimentation formelle, à l'œuvre dans ses romans, dans Le Carnet d'or en particulier, ce livre que nous évoquerons à plusieurs reprises, mais dont il sera plus largement question encore mercredi avec l'universitaire Anne-Laure Brevet, qui nous parlera également de certains autres de ses romans, comme Journal d'une voisine ou encore La terroriste. Enfin demain, nous demanderons ce qu'était le rapport de l'écrivain avec l'autobiographie, elle dont les personnages d'idéalistes comme Anna Wolf ou de rebelles comme Martha Quest constituent des doubles évidents. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, une émission introductive en deux parties. Je reçois d'abord Josiane Savigno, journaliste au Monde, pour un premier panorama de la vie et de l'œuvre de Doris Lessing. Et puis, après la chronique d'Éric Dussert, c'est l'écrivaine Geneviève Brisac qui nous racontera comment elle s'est inspirée du Carnet d'or pour écrire son roman « Dans les yeux des autres », publié en 2014 aux éditions de L'Olivier. Elle lira également pour nous des passages du Carnet d'or et du discours de réception de Doris Lessing au prix Nobel de littérature. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs.
Photographing you. Have you heard the news?
No.
You've won the Nobel Prize for Literature.
Oh,
crap. How do you feel?
Well, it's been going on now for 30 years. One can get more excited.
Thank you very much.
Alors le jour où l'Académie Nobel a décerné son prix à Doris Lessing, elle était partie faire ses courses de tous les jours en taxi. Et quand elle revient chez elle, ce sont quelques journalistes postés devant sa porte qui lui annoncent la grande nouvelle. Mais cette consécration ne semble pas l'émouvoir plus que de raison.
Any kind of remarks? Just tell me what this prize means to you.
Well, it's been going, as I say, for 30 years. One can get more excited than one gets, you know.
But this is a recognition of your life's work.
Yes.
Right, which is different than, I know, some other prizes, like the Booker has come in for some criticism for being...
Which one?
The Booker, for being some, sort of a horse race, whereas the Nobel Prize of...
Eh oui, on en parle depuis 30 ans de me donner ce prix Nobel, dit-elle tout en payant son taxi avec derrière, dans le cadre, l'artichaut qu'elle vient d'acheter au marché. Bon, poursuit-elle, j'imagine que vous attendez de moi un commentaire édifiant. Eh bien, j'avais déjà gagné la plupart des prix en Europe, maintenant on peut dire que c'est un grand chelem. Bonjour Josiane Savigno.
Bonjour.
Il y a quelques semaines, vous avez publié chez Gallimard un volume de vos articles du journal Le Monde intitulé « La passion des écrivains, rencontres et portraits » où vous présentez une trentaine d'écrivains, de Philippe Sollers à Martine Amis, en passant par Rob Grier, William Styron et celle qui va nous intéresser aujourd'hui, la grande romancière britannique Doris Lessing, prix Nobel 2007, un prix qui lui a été attribué alors que on ne s'y attendait plus et que, visiblement, elle non plus ne s'y attendait pas. Ou plus.
Oh, plus, quand je l'ai rencontrée peu avant le Nobel, quelques mois avant, on en a parlé et elle m'a dit « Oh non, mais c'est une vieille histoire, tout ça est fini ». Et en effet, ça m'amusait parce que au début de ma carrière au Monde, Le Monde avait deux éditions. Et la première fois que j'ai préparé un papier au cas où Doris Lessing aurait le Nobel, c'était en 1985. Et elle a eu... Bien longtemps après.
Du coup, vous avez eu envie de refaire un article quelques semaines, quelques mois après l'avoir rencontré. Bon, là, vous n'êtes pas retourné à Londres. Vous l'avez écrite à partir peut-être de ces images.
À partir des images de la télévision. Et puis de ce que je savais d'elle. Et c'est vrai que c'était drôle aussi qu'elle ait dit « En fait, ils me l'ont donné parce que la date de péremption était passée sur moi.
» Alors, vous dites que c'était une joueuse magnifique et ironique. Et on l'entend bien, justement, dans l'extrait qu'on vient de diffuser, ce côté joueur et ce côté ironique.
Et surtout, elle n'a pas attendu d'être adulte pour être rebelle. Elle a quitté l'école à 13 ans parce que ça l'ennuyait absolument. Et dans un entretien au Times en 2009, elle s'expliquait là-dessus et elle disait qu'elle était très heureuse d'avoir quitté l'école. Sinon, j'aurais dû aller à l'université du Cap, un lieu sinistre, pour y étudier l'histoire et la littérature. Et pour quoi faire ? Je pouvais lire moi-même. Et en fait, dans son autobiographie, le premier volume de son autobiographie, à la dernière ligne, elle dit « J'étais née de mon propre être, du moins je le croyais, je ne voulais pas savoir, je ne rentrais pas dans ma famille, je la fuyais, la porte s'est refermée, voilà tout. »
Alors c'est très important ce que vous dites là, Josiane Savigno, et on va y revenir. Peut-être pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Doris Lessing ou qui la connaîtraient de loin, peut-être faut-il redire que c'est d'abord un auteur extrêmement prolifique. Quelqu'un qui a écrit
une soixantaine de livres.
Beaucoup.
Et puis qui a une biographie quand même très intéressante. Elle naît en 1919 dans ce qui s'appelle encore la Perse. Son père est employé de banque, sa mère est infirmière. Et très longtemps après, à la fin des années 2000, elle racontera d'une manière romancée leur histoire dans Alfred et Emily. Et puis très vite, ils émigrent en ce qui s'appelle la Rhodésie du Sud, ce qui est maintenant le Zimbabwe. Et là, elle est tout de suite cette petite personne rebelle dont on parlait.
Et alors, juste avant la naissance de Doris Lessing, il y a cet événement extrêmement marquant qui est la Première Guerre mondiale et qui a son importance pour elle, vous allez l'entendre.
I was brought up on the Great War because, you know, there are two kinds of soldiers. One will never say a word about it and the others talk.
Oui, moi je peux dire que finalement j'ai été élevée à l'ombre de la Première Guerre mondiale parce que mon père, par exemple, vous savez, il y a deux sortes de soldats, finalement, ceux qui en reviennent et qui serrent les dents et qui n'en parlent plus jamais, et puis il y a ceux qui en parlent tout le temps, et mon père faisait partie de ceux-là. Il en parlait tout le temps, de la guerre. Et ma mère aussi l'avait vécu, puisqu'elle avait été infirmière pendant cette Première Guerre mondiale. Et puis, à l'époque aussi, on était très marqués par la grande épidémie de grippe, la grippe espagnole. Donc je peux dire que, et je l'ai dit parfois de façon un peu ironique, mais c'est vrai que je peux dire que je suis une enfant finalement de la Première Guerre mondiale, par mes parents, par le poids qui a pesé sur mon enfance.
Entretien avec Marc Voinchet sur France Culture, c'était le 13 février 2004. Et c'est vrai qu'on peut dire, Josiane Savigno, que Doris Lessing est une enfant de la Première Guerre mondiale, dans le sens où ses parents ont été des traumatisés, des grands traumatisés de guerre.
On le voit très bien dans ce livre, Alfred et Émilie, notamment le père. Le père fait partie de ces hommes qui ont été complètement cassés par la Première Guerre mondiale. Mais elle... Malgré tout, même si elle y revient à la fin de sa vie, elle n'avait pas le temps de s'arrêter à tout ça. Il fallait qu'elle bouge, il fallait qu'elle fasse quelque chose. Alors, avant de découvrir, comme elle l'a dit, que le mariage n'était pas un état qui lui convenait, elle s'est quand même mariée une première fois à 19 ans. Elle a eu deux enfants, un garçon et une fille. Et puis, en 1943, elle s'est séparée de son mari. Mais dès 1945, elle en épousait un autre qui s'appelait Gottfried Lessing. Et c'est celui dont elle gardera le nom pour écrire. Et
il faut dire que le premier mari s'appelait Charles Wisdom. Alors c'est extraordinaire drôle. Parce que wisdom en anglais, évidemment, ça veut dire sagesse. Et elle n'était pas sage du tout, non. Mais quand même à 20 ans ou 18 ans, elle se marie. Pour faire comme tout le monde, pour être dans la voie de la sagesse?
Non, je pense que c'était pour fuir la famille, pour être encore plus autonome. À l'époque, c'était pas si facile de vouloir vivre seule.
Donc encore moins sage alors.
Encore moins sage. Ce qui est très curieux, c'est qu'elle n'était pas vraiment faite pour être mère. Je comprends pas pourquoi elle a eu deux enfants d'abord, puis un autre avec Gottfried Lessing. Et d'ailleurs, c'est avec le seul enfant de Gottfried Lessing qu'elle a déménagé en 1949 à Londres, avec dans ses bagages des manuscrits, dont Vaincu par la brousse, qui sera son premier livre en 1950. Et après, finalement, sa biographie est accompagnée de tous ces livres dont vous avez dit qu'ils sont extrêmement nombreux et dans des domaines extrêmement différents, puisqu'il y a des romans, il y a des nouvelles, mais il y a aussi de la science-fiction. Et souvent la science-fiction, c'est comment dire, une littérature de genre, et les gens qui s'y consacrent ne se consacrent qu'à ça, ce qui n'est pas le cas de Doris Lessing.
Mais il y a aussi de la poésie, du théâtre. Et à chaque fois, elle cherche la forme qui correspond à ce qu'elle a envie de dire. Elle part de ce qu'elle a envie de dire pour ensuite trouver la manière la plus adaptée de le dire.
C'est quelqu'un d'extrêmement, comment dire, pluriel dans sa manière, dans sa création. C'est ça qui me frappe chez elle, c'est que, bien sûr, alors, elle s'était beaucoup moquée des éditeurs, puisque quand elle a publié sous pseudonyme de Jane Somers, ils ne l'ont pas reconnu. C'est son éditeur français, Ivan Nabokov, qui l'avait reconnu. Mais ses éditeurs ne l'ont pas reconnu. Et elle s'est bien moquée d'eux en disant, ils prétendent, mais ils ne reconnaissent même pas mon style. Et c'est vrai que son style, normalement, devrait être reconnaissable, mais la variété de ces thèmes, de cette manière dont vous dites que elle s'adapte à chaque fois, elle adapte à chaque fois la forme à ce qu'elle veut dire.
Mais vous pourriez définir son style néanmoins, ou tenter de le faire, ou c'est impossible?
C'est difficile, hein, parce que par exemple, moi je pourrais pas la reconnaître dans la science-fiction.
Vous auriez fait comme son éditeur, vous auriez peut-être refusé son manuscrit, reconnaissant
pas. Je ne sais pas si je l'aurais refusé, mais je ne suis pas sûre que je l'aurais reconnu. J'étais très admirative de Ivan Nabokov, qui lui, quand il a reçu le manuscrit, a dit « mais c'est Doris Lessing ».
Alors l'Afrique, quand même, où elle passe toute son enfance, en Rhodésie du Sud, l'actuel Zimbabwe, c'est tout de même au cœur à la fois de sa littérature et de son expérience personnelle, Josiane Savigny.
Oui, et de son engagement aussi, puisque donc elle a été proche du Parti communiste, puis au Parti communiste à Londres entre 1952 et 1956. Elle est partie au moment de l'affaire de Hongrie. Mais c'est ce qu'elle a vu et qui l'a indignée dans ce pays, qui a fondé son engagement. Elle aimait pas tellement dire engagement politique, mais ce qu'elle aimait, c'était que le ferment de révolte et la défense des gens opprimés et laissés pour compte. Et alors, elle a eu beaucoup d'ennuis parce que elle a été interdite de séjour très longtemps. En fait, au milieu des années 90, elle a pu retourner, et là, elle est allée en Afrique du Sud, où vivait sa fille. Elle a pu voir sa fille et ses petits-enfants, etc. Puis, elle s'est encore, montrée très ferme, très virulente contre Mugabe, et hop, re-interdiction.
Oui, parce que, autant elle s'est beaucoup battue pour l'indépendance de la Rhodésie, puisqu'elle était évidemment très choquée par la manière dont la majorité noire était traitée par la minorité blanc, autant finalement elle s'est rendue compte que ça n'était pas mieux ce qu'était devenu le Zimbabwe de Mugabe. En tout cas, non. C'est ce qu'elle a dit.
Non, non, non. Et quand elle parle non pas de son engagement politique, parce qu'elle aime pas ça, mais plutôt de ses combats, elle parle justement de tout ce que vous dites, à savoir... Dans un entretien au Monde en 1981, elle dit « J'étais en Rhodésie du Sud, dans une société très réactionnaire, très inculte, très provinciale. Au début de la guerre, il y a eu un afflux de réfugiés, de communistes. Pour la première fois, j'ai rencontré des gens qui avaient lu, qui avaient réfléchi, et j'ai adopté leur point de vue sur l'affreuse condition des Africains. Avant, je n'avais rencontré personne qui pensait ainsi. » Et en effet, elle a trouvé, comment dire, une réponse à ce qu'elle cherchait sur son constat de l'horrible condition des Africains.
Et puis une sortie de cet univers familial oppressant et d'un rapport avec une mère qui était pour le moins conflictuelle.
Ah oui, je crois que non seulement Doris Lessing n'était peut-être pas faite pour être mère, mais elle n'était pas faite non plus pour être fille, en tout cas pas fille de sa mère.
Oui, elle n'était pas faite pour être mère, à tel point que quand elle a quitté l'Afrique pour l'Angleterre, elle a laissé deux de ses enfants.
Elle est partie seulement avec le fils de Godfrey Lessing, qui est né en 1947, et qui est son héritier, qui est toujours vivant.
Ouais. Elle vous en a parlé quand vous l'avez rencontré?
Des enfants? Non.
Vous lui avez peut-être pas posé de questions là-dessus?
Non, j'ai pas osé parler. J'ai parlé de son âge, j'ai pas osé parler j'ai parlé de l'autobiographie en lui demandant pourquoi il y aurait pas de troisième volume. Et elle m'a expliqué que le troisième volume impliquerait des gens qui sont encore vivants et que ça c'était pas convenable et que donc il y aurait pas de troisième volume, ce que je trouve très triste.
Je vous ai pas demandé d'ailleurs dans quelles circonstances s'était passée cette rencontre, ces rencontres.
Non, il y en a eu une seule. En fait, on avait essayé. J'avais très envie d'aller voir Doris Lessing depuis très longtemps, mais on avait essayé de me décourager. Des consoeurs m'avaient dit non, elle est affreuse. On y est allé, c'était épouvantable. Et donc j'avais un peu peur parce que l'idée d'être confrontée négativement à quelqu'un qu'on admire tellement, c'est toujours un peu délicat. Mais quand elle est passée en France, je me suis dit non, tu peux pas. Je peux pas y renoncer, tant pis si elle est désagréable. En fait, elle a absolument pas été désagréable, elle a été extrêmement bienveillante. Et ça, même moi, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais vous savez que certaines personnes trouvent que vous êtes très très dur dans les entretiens. Et là, lapidaire comme elle pouvait l'être, elle m'a dit, parce que je refuse de répondre aux questions idiotes et je dis qu'elles sont idiotes.
Dans une agonie de désespoir typiquement adolescent, Martha se répétait que sa mère était odieuse, que toutes ces vieilles bonnes femmes étaient odieuses et que les conventions sociales avec leurs mensonges, leurs fuites, leurs compromis étaient parfaitement dégoûtantes. Assise au pied de son arbre fétiche, elle retrouva peu à peu son calme. Elle se mit à fixer le feuillage illuminé de soleil, mais c'est elle-même qu'elle contemplait. Et de la seule manière qui lui avait été donnée de pouvoir le faire, à travers la littérature. C'est grâce à ses livres que Martha avait acquis une image précise d'elle-même. Elle était adolescente, donc forcée d'être malheureuse, anglaise, donc mal à l'aise et méfiante, vivant dans la quatrième décennie du XXe siècle, donc inévitablement confrontée aux problèmes de race et de classe sociale, de sexe féminin, donc obligée de répudier les femmes esclaves du passé. Elle était tourmentée par la culpabilité, la responsabilité et la conscience de soi. Elle pensait tristement, « Bon, si tout a déjà été dit, pourquoi faut-il que j'y passe à mon tour ?»
Vous écoutez La Compagnie des auteurs sur France Culture et c'est un extrait des Enfants de la violence qui était lu par Guillaume Gallienne et qui ressemble presque à un autoportrait de Josiane Savigno.
Oui, bien sûr, et cette lutte contre les conventions sociales a été le combat de sa vie. À la fin de sa vie, elle a écrit beaucoup de textes contre le politiquement correct. Et tout à l'heure, vous parliez de ce scandale qu'elle a fait en 2001 à Édimbourg en critiquant les féministes. Et bien entendu, quand je l'ai rencontrée, je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça. Et j'aime assez ce qu'elle dit. Elle dit « Je maintiens ma position. Après avoir fait une révolution, beaucoup de femmes se sont fourvoyées, n'ont en fait rien compris, par dogmatisme, par absence d'analyse historique, par renoncement à la pensée, par manque dramatique d'humour. » Et le manque dramatique d'humour, je l'ai vu moi aussi chez certaines féministes, et je ne peux pas ne pas être d'accord avec elles.
Oui, parce qu'elle disait même des femmes, de certaines femmes bien entendu, qu'elles étaient stupides, ignorantes et méchantes. Et ça évidemment... Quand on a été une féministe dans les années 70 et qu'on a pris le carnet d'or pour un livre féministe, forcément, ce sont des mots qui ont dû blesser et il y a dû y avoir de l'incompréhension.
Je ne sais pas. Mais vous savez, Simone de Beauvoir est très critiquée par certaines féministes aujourd'hui.
Et par Doris Lessing d'ailleurs, qui n'aime pas Simone de Beauvoir.
Parce que Simone de Beauvoir, que Doris Lessing a mal lu à mon avis, n'a jamais dit « Femme, parle, la vérité sort de ta bouche ». Dans le deuxième sexe, elle montre au contraire comment les femmes ont à sortir de leur soumission et de leur renoncement à la pensée, comme dirait Doris Lessing.
Alors reprenons un petit peu la chronologie. Vous avez commencé de le dire tout à l'heure, Josiane Savigno, Doris Lessing rentre de Rhodésie dans sa vingtaine en Angleterre avec sous le bras le manuscrit de ce qui deviendra un très grand succès littéraire.
Et c'est là. Sa trentaine, non?
Alors,
c'est 1949.
Je crois qu'elle rentre, elle doit avoir 20 et quelques années.
Elle est née en 19, donc en 49, elle a 30 ans.
C'est ça. Alors, mais quand elle rentre en Angleterre, elle a 20, 25 ans. Elle se met à écrire à 25 ans.
Mais non, elle rentre en 49 en Angleterre.
Ah oui, oui, 31 ans. C'est parce que, oui, pardonnez-moi, je fais une.
Elle arrive en 49. Elle a des manuscrits dans ses bagages, notamment Vaincu par la brousse, qui est accepté assez vite par un éditeur, et donc il est publié en 1950. Et en effet, après, elle produit, et comme va tout à fait le montrer Geneviève Rizac, ça ne s'arrête pas.
Et notamment, le cycle des enfants de la violence, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit?
Alors, c'est un cycle extrêmement complexe. Et en effet, vous avez donné le sel de ce cycle. Mais alors, elle a un destin aussi. C'est pas étonnant qu'on se mélange dans les dates, parce qu'elle a un destin étonnant. Par exemple, le carnet d'or, c'est 1962 et c'est traduit en français en 1976. Mmh. C'est incroyable.
Comment vous expliquez une telle différence entre l'original et la traduction?
Mais c'est ce que je pense que les éditeurs français n'ont pas mesuré à l'époque l'importance de ce livre. Ils n'ont pas mesuré l'importance de Doris Lessing. Ils ont mis pas mal de temps. Ensuite, ils se sont mis à traduire plein de choses qu'ils avaient oubliées. Et alors, si on regarde je me suis amusée à regarder dans la notice de ses œuvres sur Wikipédia, les écarts. Alors, au début, il y a des écarts énormes, comme ça, 1962, 1976. Et à la fin, par exemple, Alfred et Émilie, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ce roman autobiographique sur ses parents, il a été publié en 2008 et traduit immédiatement. Mais c'était aussi un livre assez bref.
Et puis c'était après le Nobel.
C'était après le Nobel, oui.
Alors, vient de nous rejoindre Geneviève Brisac, que nous attendions en seconde partie, mais que nous sommes ravis d'accueillir dès maintenant. Geneviève Brisac, sur ce qui a été dit depuis le début de cette émission par Josiane Savigno, qu'est-ce que vous souhaiteriez ajouter?
Non, mais j'ai réfléchi à la question que vient de soulever Josiane concernant la lenteur de la traduction. Je crois qu'elle-même, elle s'en explique très bien. Et elle dit que quand le carnet d'or est paru, il a eu beaucoup de succès, mais il a aussi fait l'objet d'une énorme incompréhension. Et il faut bien le dire, parce que c'est une femme écrivain et qu'on considère qu'elle raconte en gros des histoires d'amour, si ce n'est des histoires de cul. Et qu'elle pense qu'elle fait une œuvre, enfin, je le pense aussi, politique, littéraire, formelle, et qu'on pourrait parfaitement la comparer à William Faulkner, qui lui aussi raconte des histoires de cul. Mais comme c'est son point de vue de femme, c'est immédiatement dévalué. Je pense que ça joue énormément. Ça joue énormément. Donc elle va être publiée chez Albin Michel pendant très longtemps, mais elle n'est pas considérée.
Chez Flammarion plus tard.
Voilà, mais elle n'est pas considérée comme un écrivain mainstream, enfin, comme un grand écrivain. Elle est considérée comme une femme écrivain qui a beaucoup de succès, qui est une autre catégorie.
Est-ce que ce n'est pas aussi le fait précisément que le carnet d'or, qui est l'œuvre qui l'a fait vraiment connaître ici en France, et sans doute dans le monde aussi, ait été publié dans les années 70, à un moment où c'est précisément l'explosion d'un certain mouvement féministe? Est-ce qu'il n'y a pas eu là une espèce de concordance qui a teinté du coup la vision qu'on avait d'elle?
C'est-à-dire que c'est tout à fait légitime. C'est-à-dire que comme énormément d'écrivains, Doris Lessing, elle est visionnaire. Donc elle écrit 15 ans avant ou 20 ans avant. Elle décrit très bien ce qui va se passer. C'est la première chose. La deuxième, c'est que moi, je me souviens de mon adolescence. Le premier livre que j'ai lu vers 14 ans, je pense, 15 ans, c'est Les enfants de la violence. Et l'histoire de Martha Quest m'avait absolument emportée. Il y avait une identification totale. En plus, c'est un très, très beau livre. La rébellion de cette jeune fille, a été un objet d'identification, je pense, pour énormément de jeunes filles.
Oui, bien avant le carnet d'or, c'est vrai. C'était une héroïne de révolte. Et donc, oui. On se sentait porté par cette Martha Quest qui est, l'extrait que vous avez mis tout à l'heure est totalement emblématique, quoi. Refus des conventions. Et on se disait, il faut être comme ça. Moi, il y avait Doris Lessing et Simone de Beauvoir qui m'expliquaient que j'étais pas condamnée à reproduire, mais que je pouvais essayer de construire ma liberté.
Donc, c'est générationnel? Pour vous,
peut-être générationnel. Je sais pas, les grands écrivains sont pas générationnels.
Non,
pour
je crois pas. Je crois pas. Enfin, générationnel à répétition à ce moment-là. Parce qu'on voit bien comment aujourd'hui, on va en reparler, j'espère, Doris Lessing est un écrivain parfaitement adapté aux circonstances.
I think that people of my generation, every one of whom has been
Les gens de ma génération ont tous été évidemment marqués par le communisme, on n'a pas pu y échapper. Et je crois qu'on a du mal, évidemment, on a beaucoup de mal à croire en quelque action politique ou en quelque parti politique que ce soit, parce qu'on a perdu toutes nos illusions. Est-ce bien, est-ce mal? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous trouverez peu de mes contemporains dans des partis politiques ou s'étant engagés derrière une cause politique ou une autre.
Doris Lessing, au micro de Marc Voinchet, qui évoque sa désillusion vis-à-vis du communisme et des grandes utopies. Et ça a été, Josiane Savigno, sa trajectoire, celle de la désillusion, trajectoire qu'on retrouve également dans les personnages de ces différents romans.
Mais c'est vrai que dans Le Carnet d'or, vous l'avez dit, on a voulu voir surtout un livre iconique pour le féminisme, mais il y a aussi dans Le Carnet d'or la désillusion des illusions politiques, justement. C'est très fort dans Le Carnet d'or.
C'est le sujet du Carnet d'or?
Non, pas seulement. Il y a cette histoire de tous ces carnets différents. Et le dernier, Le Carnet d'or, c'est ça qui est très beau. C'est cette construction si subtile du Carnet d'or. Mais là, je retombais sur ce que disait le Nobel. Un Nobel soigneusement pesé, comme ils ont dit ça. Évidemment, quand on met 35 ans à le peser, il est bien pesé.
Oui, après la date de péremption, vous le disiez.
Mais surtout, dans le communiqué officiel, il disait qu'elle était la conteuse épique de l'expérience féminine qui, avec scepticisme, ardeur et une force visionnaire, scrute une civilisation divisée. Alors, je trouvais que c'était une description, certes pas fausse, mais un peu feutrée pour la guerrière qu'elle a été. Parce qu'on l'a vu à travers ses prises de position parfois contestées sur les femmes, sur d'autres. C'était vraiment une combattante et une guerrière.
Alors précisément, quand on parle de cette trajectoire de la désillusion, puisque nous avons la chance de vous avoir toutes les deux ensemble autour de cette table, j'aimerais vous demander, à l'une comme à l'autre, en quoi ça a pu être pour vous un miroir que cette trajectoire de la désillusion. Je pense que Geneviève Brisac, vous avez été très engagée dans votre jeunesse politiquement, peut-être l'êtes-vous encore aujourd'hui, peut-être d'une manière différente. Comment est-ce que cette trajectoire de Doris Lessing, d'un communisme auquel elle a cru, elle disait tout à l'heure dans l'archive que c'était les communistes qui avaient ouvert ses horizons quand elle était en Afrique. Comment est-ce que ça renvoie peut-être à votre propre expérience, Geneviève Brisac, et puis je vous demanderai la même chose ensuite, Josiane Savigno.
Comment dire, Mathieu? En fait, je ne sais pas si le mot désillusion convient vraiment. C'est plus une confrontation, c'est-à-dire qu'elle devient communiste donc en Afrique, ce que raconte le Carnet d'or avec ses réunions de cellules, ses visites au secrétaire du parti, enfin, qui sont absolument désopilantes. Mmh. C'est très très drôle, très intéressant. C'est ce qu'ont vécu effectivement plusieurs générations. Mais qu'est-ce qu'elle attend des communistes? C'est ce qui, d'ailleurs, ce qu'ils apportent, un soutien aux révoltes, une lutte contre les injustices, un soutien au peuple, une lutte aux côtés des Noirs contre l'apartheid, le racisme, etc., etc. Puis qu'est-ce qu'elle découvre très rapidement, comme tout le monde? Le mensonge, la langue de bois, le stalinisme en un mot. Et donc, elle a pas, c'est pas une désillusion. Elle découvre que le Parti communiste, et ça, beaucoup, beaucoup de gens l'ont découvert en plus ou moins rapidement de 1921 à aujourd'hui, et par couches successives. Et elle découvre que ça n'est pas le lieu de la vérité, et que ce n'est pas le lieu de l'émancipation, que ce n'est pas le lieu de la fraternité. Et donc, elle passe ailleurs. Elle passe ailleurs et elle essaye, comme beaucoup aussi, de continuer ce combat, ou du moins cette exigence individuelle, humaine, de servir à quelque chose, à une façon de faire de sa vie un passage qui est une utilité. Donc elle va essayer de voir ce que ça donne avec les romans.
Justement, est-ce que, en tant que lectrice, parce que le rapport souvent à Doris Lessing de nombre de lectrices est un rapport extrêmement fort, est-ce que il n'y a pas ça derrière ce rapport extrêmement fort, finalement, d'un miroir, d'une trajectoire que on vit peut-être tous, mais que peut-être vous avez vécu plus fortement que d'autres?
Oui, bien sûr, vous avez sûrement raison. Mais c'est une identification surtout à... Enfin, l'identification à un écrivain ou à ses personnages n'est pas forcément liée à la ressemblance. C'est ça, ce sur quoi je voulais insister. Par exemple, elle parle dans son discours du prix Nobel, sur lequel on va revenir tout à l'heure, d'une jeune femme africaine qui s'identifie à Anna Karénine. Elle s'identifie vraiment à Anna Karénine, et c'est pas parce qu'elle est princesse ou elle meurt de soif, mais elle s'identifie à Anna Karénine. Donc je pense que l'identification, elle se fait plutôt à un questionnement.
Est-ce que cette identification dont parle Geneviève Brisac, Josiane Savigno, elle ne tient pas au fait que les personnages de Doris Lessing, sans être des idéotypes, sont quand même parfois des archétypes, et qu'ils représentent par exemple un type de pensée ou un autre, qu'ils sont représentatifs d'un type de pensée à un moment donné?
Je reprends ce qu'a dit Geneviève, c'est-à-dire que l'identification à un questionnement plutôt qu'à des personnages, même si c'était en effet des archétypes. Et moi, quand je suis arrivée à l'heure de l'engagement politique, il me semble que j'avais déjà, comme Doris Lessing, compris que le Parti communiste n'était peut-être pas le lieu absolu de l'émancipation.
Mais vous étiez idéaliste quand même, Josiane Savigno, bien entendu.
Idéaliste, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'étais idéaliste, peut-être, oui. Peut-être. En tout cas, ce qui m'a requise chez Doris Lessing, comme chez Simone de Beauvoir, c'est l'idée du combat. C'est l'idée du combat qui ne cesse pas. Parce qu'on voit bien que, comme l'a dit Simone de Beauvoir, la question des femmes est toujours remise en cause. Et quand ça va mal politiquement, on le voit en ce moment aux États-Unis et ailleurs.
Mais ça aide à devenir une femme forte de lire Doris Lessing?
Ah, ça, je crois.
Geneviève Brisac.
C'est ce que je pense, Geneviève, moi, je crois.
Ou peut-être un homme...
Vous êtes une femme forte, Geneviève Brisac?
Non, je ne crois pas, mais j'en sais rien. Je ne sais pas, ça, je poserai la question. Je pense surtout que Doris... je voulais revenir sur ce que vous disiez sur les personnages un peu emblématiques ou éventuellement caricaturaux ou un peu simplifiés. En fait, je ne sais pas exactement à quel personnage vous faites allusion, parce que c'est comme la question du féminisme. Je pense que l'objet de toute l'œuvre de Doris Lessing, comme celle de Grace Paley, pour apporter un autre éclairage comme ça, c'est d'attraper la vie. Donc, au contraire, ces personnages masculins et féminins sont extrêmement complexes. Et ils sont même, elles cherchent. Parfois, ils sont même un peu trop d'épaisseur pour moi. Tellement ils ont une épaisseur humaine qui parfois dépasserait un peu la littérature, disons.
Et on va continuer d'en parler.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Comme chaque jour, nous marquons une pause dans cette émission pour retrouver l'un de nos chroniqueurs préférés, disons-le, dans Compagnie des revues. Il s'agit d'Olivier Moni qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu.
Alors Olivier, vous ravivez le souvenir dans cette chronique de ce qu'il faut bien appeler un grand oublié de la littérature française contemporaine et dont vous voulez nous parler aujourd'hui.
Oui, alors pas tout à fait à Bordeaux, d'où je vous parle aujourd'hui, mais hélas, dans l'ensemble de la scène littéraire, c'est le cas. En tout cas, c'est une preuve supplémentaire, s'il en était besoin, de ce que la postérité est parfois mauvaise fille. Mais commençons, Mathieu, si vous le voulez bien, par un peu de lecture. Soit un nuage, un merveilleux nuage comme nous les aimons depuis l'enfance, au point de nous mettre, la dernière heure venue, en posture de les voir passer encore une fois. Celui-ci arrive de loin. Il s'est formé au-dessus de la Caspienne, où l'on produit aussi du caviar. Laissant sur sa droite la route des grands fleuves russes, il a préféré suivre la pente naturelle du soleil. Il a donc vu le jour se lever sur la mer d'Azov. À Sébastopol, il a changé pour Odessa. Il a survolé la Moldavie et pris son rythme de croisière à la verticale du Danube. Belgrade, Sarajevo. Aucun reflet de coupole ou de rivière, pas même les seins dorés de Venise ne l'ont retenu. Seule peut-être la Suisse, un instant, l'aurait tenté. L'atmosphère y est si pure. Les cumulus rangés avec tact entre les montagnes ont l'air tellement à leur place. Il faut en convenir, les sommets helvètes et les nuages vont aussi bien ensemble que les beaux parleurs et les coins de cheminée. Il a continué cependant, et c'est alors qu'à l'ouest de Bordeaux, un homme qui regardait vers le ciel l'a vu apparaître. Cet homme, qui regarde passer les nuages dans le ciel de Bordeaux, s'en est allé avec la discrétion qui lui était coutumière un jour de janvier 2013. Ses lignes, si emblématiques de sa manière d'être et d'écrire, rêveuses, voyageuses, sont extraites d'un de ses plus beaux livres, « Bord d'eau », en trois mots, les bords des eaux en fait. Il s'appelait Pierre Veilleté et il n'est pas trop tard pour le redécouvrir tout à fait.
Alors racontez-nous, Olivier, qui était Pierre Veilleté ?
D'abord, Mathieu, un journaliste, un des plus grands. Il se lance dans le métier vers la fin des années 60 dans les pages de Sud-Ouest avec celui qui restera le grand complice et ami de sa vie, Jean-Claude Guibaud. Prix Albert Londres pour une éblouissante série de reportages sur la mort de Franco. L'Espagne sera toute sa vie un de ses ports d'attache. Il y en aura d'autres. Londres, Lisbonne, Gênes, Amsterdam, les rives du Médoc. Il écrit sur tout ce qui relève de son bon plaisir. Les courses de voitures, la corrida, la télévision. Quand d'ailleurs éditera-t-on les sublimes chroniques de télévision qu'il écrivit des années durant chaque dimanche et dont seules celles de Serge Danet consacrées au même sujet soutiennent la comparaison. Le cinéma, bien sûr, et surtout le cinéma classique de l'âge d'or d'Hollywood, le vin, qui lui est une civilisation, le jazz, les jeunes filles de province et les femmes des ports.
Et la littérature peut-être aussi ?
Bien sûr, elle est celle qui ne se laisse jamais tout à fait oublier, c'est son atmosphère. Et ce même s'il lui faudra attendre d'atteindre la quarantaine pour enfin publier sous son nom, et grâce à l'insistance de Jean-Claude et Catherine Guibaud, qui fondent alors les éditions Arléa, auxquelles il restera fidèle jusqu'à la fin, un premier roman, La Pension des Nonnes. D'autres suivront, Marie Barbola, Cœur de Père, très beau également. Mais ce n'est pas pour eux, je crois, que Pierre Veilleté mérite d'entrer en habit de lumière dans la postérité. Et je crois aussi qu'il le savait et qu'il en souffrait. S'il est un écrivain magnifique, comme un héritier direct du meilleur Morand, celui de Venise, autant que du Barnabous de Larbeau, c'est par ses petites fugues, ses échappées d'hédonistes amusés, parfois cruels aussi, celles de Bordeaux, que l'on a déjà cité, de Querencia. Cette Querencia, qui est un terme tauromachique désignant le refuge mental du taureau dans l'arène, qui résume à elle seule l'homme et son œuvre. Pierre Veilleté, c'était un grand peintre des paysages intérieurs comme de ceux que lui offraient ses rêveries. Il y a du Gracq en lui, du Vialat également. Et c'est à cette hauteur, dans ce compagnonnage, que son œuvre mérite d'être placée et absolument redécouverte. Sous le titre « Oui, j'ai connu des jours de grâce », les éditions Arléa l'ont réédité en un volume et en intégralité. C'est une pièce maîtresse de la bibliothèque de tout gentleman, de tout honnête homme, Mathieu.
Merci beaucoup, Olivier. Et donc, on se retrouve à ce même micro la semaine prochaine. Alors Geneviève Brisac, je n'ai pas dit tout à l'heure, vous ne m'en avez pas laissé le temps que vous publiez Vie de ma voisine, c'est chez Grasset, c'est un titre qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs, un titre de Doris Lessing, Journal d'une voisine, vous l'avez fait exprès ou pas ?
Ah non, alors pas du tout.
Vous y avez pensé peut-être ?
Pas du tout.
Non, pas du tout ?
Pas du tout, et alors quand je l'ai redécouvert, j'avais complètement oublié. J'ai effectivement été amusée, et puis les coïncidences dans la vie d'un écrivain, c'est toujours charmant. À vrai dire, mon Vie de ma voisine n'a pas beaucoup à voir avec le journal de Doris Lessing, même si c'est un roman que j'aime beaucoup, qui est très intéressant. Mais enfin, si, ça a quand même à voir dans le sens où une des choses nombreuses que je partage avec Doris Lessing, c'est son interrogation par rapport à la question du réel, l'articulation entre la fiction et le réel. Mmh. Et le fait qu'elle s'est tout le temps battue avec ça, en particulier à cause de sa... engagement est un mauvais mot et les autres ne sont pas très bons non plus, de son implication, de commitment, ça peut être un bon mot.
Engagement, ouais, oui, c'est ça. Ouais.
Mais en anglais, ce commitment, il a...
Oui, il n'est pas militant, quoi.
Exactement, exactement. C'est un engagement, commitment, on dira, cette façon de se sentir partie du monde, individu dans le monde, donc, et Donc c'est pour ça que c'est assez normal finalement que j'ai écrit Vie de ma voisine et qu'elle ait écrit le journal d'une voisine. D'autant qu'il y a aussi ce goût qu'on a en commun, peut-être pour les artichauts, c'est une chose.
Oui, si vous avez le prix Nobel un jour, j'espère que vous aurez un artichaut derrière vous quand on viendra vous l'annoncer à la porte de chez vous.
C'est loin d'être exclu, c'est loin d'être exclu. Et la deuxième chose, Josiane
Savigno
rapport
fait campagne
au...
pour vous, j'en suis sûre.
Oui. Ah ben oui, mais ça va prendre du temps, comme pour Doris Lessing.
Non, c'est aussi lié à ce rapport au quotidien, c'est-à-dire une espèce de dégoût et d'horreur pour la mondanité, la solennité, les gens qui se la jouent. Et Doris Lessing, elle a toujours été, à cause de son goût de la vérité et sa conviction que seule la vérité avait à voir avec la littérature et l'art, elle a toujours effectivement fait des scandales, mais pas tellement par goût du scandale, et je la comprends très bien, mais par goût d'être comme elle était et par une assez grande indifférence aux conséquences que ça pouvait avoir.
Alors, on a promis à nos auditeurs qu'on allait vous entendre lire des extraits du Carnet d'or. Pour commencer, Geneviève Brisac, vous avez choisi, je crois, alors, le début plus ou moins du Carnet d'or.
Je vais faire un petit préambule.
Vous avez changé d'avis, peut-être.
Oui, bien sûr, ça va de soi. Mais non, c'est pas exactement ça. C'est plutôt que l'énorme problème du Carnet d'or, comme c'est un très très gros roman qui fait 1000 pages, et que l'écriture, vous en parlerez au cours de la semaine, je crois, avec Anne-Laure Levé en particulier, de Doris Lessing, n'est pas particulièrement elliptique ni condensée, ce qui est une assez grande différence avec la mienne. Parce que
ce qui en fait une romancière du récit aussi, justement.
Une conteuse. C'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement... Vous avez lu une page de Doris Lessing, vous n'avez pas commencé le début de la moitié du commencement d'un propos. Oui. Donc ça ne s'y prête pas tellement. Alors j'ai choisi une petite page comme... Alors j'ai pensé d'abord vous lire l'introduction. Il y a une très très bonne introduction à ce roman, Le Carnet d'or.
Bah, allez-y si vous voulez, mais
Non, je vous lis mon passage.
Alors, le passage plutôt.
Passage. Bon, je suis désolée parce que contrairement à Doris Lessing, moi je déteste ne pas faire ce qu'on me demande. Donc, Donc c'est un dialogue entre Anna et Molly, donc les deux héroïnes principales.
L'une réaliste, l'autre utopiste.
Exactement. Et alors, j'ai lu, donc elle parle d'un type qui était peintre. Pendant ton absence, il est arrivé quelque chose d'assez intéressant. Tu te rappelles Basil Ryan, le peintre ? Oui, bien sûr, je le connaissais. Eh bien, j'ai lu un article où il déclarait qu'il ne peindrait plus jamais, parce que le monde est un tel chaos que l'art y est absurde. Cette déclaration fut suivie d'un lourd silence qu'Anna rompit en demandant « Est-ce que ça signifie quelque chose pour toi ?»« Non. Surtout, venant de toi, tu n'es pas un auteur de petits romans guimauves, de petits romans sur les émotions. Tu traites la réalité. » Anna se retint de rire et répondit sérieusement. Est-ce que tu as remarqué, comme nous avons souvent tendance à répéter des échos ? La remarque que tu viens de faire est un écho de la critique du Parti communiste envers son livre. À ses pires moments, qui plus est. Dieu sait que ce que signifie cette phrase, mais pas moi. Je n'en sais rien, je n'en ai jamais rien su. Si le marxisme a la moindre signification, il devrait signifier qu'un petit roman sur les émotions reflète le réel, puisque les émotions constituent une fonction et un produit d'une société. Bah, ne me regarde pas ainsi, Molly. Tu voulais que j'en parle, eh bien, j'en parle. Autre chose encore fascinant, si ce n'était consternant, nous voici en 57, l'eau passe sous les ponts, etc. Et nous assistons soudain, en Angleterre, à un phénomène qu'on n'avait pas prévu, une quantité de gens, qui n'ont jamais rien eu à voir avec le parti, se dressent soudain, comme s'ils avaient découvert tout seuls la chose, et disent que les petits romans et les pièces de théâtre sur les émotions ne reflètent pas la réalité. La réalité pour eux, je vais te surprendre, c'est l'économie, ou les mitraillettes qu'il faut chez opposants au nouvel ordre. Voilà. Mm-hmm. Alors c'est assez intéressant parce qu'on pourrait pratiquement
en fait, c'est vrai qu'on se laisse totalement embarquer non seulement dans votre lecture, mais c'est ce que vous disiez, je crois, à l'instant, Geneviève Brisac, c'est que quand on commence à lire un paragraphe, il y a quelque chose qui nous donne envie de continuer, un rythme un petit peu berçant qui fait qu'on entre dans la conversation entre ces deux personnages, et même au fur et à mesure, on entre évidemment dans leur tête, dans leurs contradictions, dans leurs angoisses.
Dans leurs pensées. Parce qu'il s'agit d'émotions de pensée. Là, il y a quand même un personnage, Anna, qui est un écrivain déprimé, un écrivain qui se demande si elle va continuer à écrire, et pourquoi elle se le demande ? Parce qu'elle n'y arrive plus. Et pourquoi elle n'y arrive plus ? Parce que c'est le chaos. Et pourquoi c'est le chaos ? Parce que la situation dans laquelle elle est n'a plus ni queue ni tête en 1956 ou 57, etc. Et donc, elle se demande comment... Elle n'imagine pas écrire des livres qui, comme elle le dit dans un autre passage, seraient des articles de journaux. parce qu'elle considère que c'est, contrairement à beaucoup de gens aujourd'hui, que c'est pas la même chose, les livres et les articles de journaux. Donc elle ne veut pas faire de reportage. Moi, quand j'écrivis de ma voisine, c'est pas un reportage, c'est un livre, un roman, c'est de la littérature, c'est l'objet. Et donc elle tient absolument à ce qu'il y ait une grande différence entre littérature et écriture sur le monde. Et pour qu'il y ait cette différence, il faut que ça vienne du plus profond, des émotions.
Josiane Savigno, Geneviève Brisac a choisi cet extrait. Est-ce que vous auriez choisi un extrait similaire? Est-ce qu'il vous semble caractéristique de l'œuvre de Doris Lessing?
C'est un extrait qui pose quelque chose de ce livre. Comme Geneviève Brisac l'a dit, la question de la création, la question de... Et en effet, Doris Lessing ne voulait pas faire des livres, elle voulait faire de la littérature. Et le carnet d'or, c'est un exemple absolu. Et en effet, Anna, on est juste, comme l'a dit Geneviève Brisac, on est juste après l'histoire de la Hongrie. Donc elle est déprimée politiquement. Elle est donc déprimée politiquement, déprimée littérairement. Elle est dans une sorte d'impasse et il faut qu'il se passe quelque chose. Et Geneviève va nous dire ce qui se passe.
Allez-vous nous le dire.
Et ce qui se passe donc, c'est qu'elle va recomposer son... elle fait une psychanalyse d'abord. Quand même le dire, c'est très important puisque les relations avec cette psychanalyste ponctuent aussi le carnet d'or. Et puis elle va réécrire sa vie en la déstructurant et en la restructurant à travers quatre carnets. Donc ce carnet rouge, ce carnet jaune, ce carnet bleu et ce carnet noir.
Noir d'abord, et puis d'or, voilà. Finalement.
Et qui va devenir après, qui vont se synthétiser de manière assez hegélienne en un carnet d'or qui va être la résultante et la possibilité d'écrire. Mais avant d'y arriver, il faut qu'elle traverse bien des avanies qui concernent la société de consommation. Elle en parle très bien quand son livre, qui a eu du succès, menace d'être acheté par un producteur pour faire un film et qu'on lui dit qu'il faut plus que ça s'appelle aux frontières de la guerre mais amour je sais plus quoi, amour, enfin,
amour, gloire et beauté, mais avec quelque chose du genre.
Donc enfin ce genre de confrontation là et puis avec les hommes et puis avec la politique, justement.
Alors, tout à l'heure, vous disiez, Geneviève Brisac, que ce qui vous intéressait en particulier, et Doris Lessing aussi, c'était le rapport entre fiction et réalité. Et là, on a le sentiment que dans le carnet d'or, c'est la réalité qui empêche l'écrivain, qui est un personnage, mais qui ressemble beaucoup à Doris Lessing, d'écrire. Mm-hmm. C'est la réalité et le fait de se positionner, notamment politiquement, dans le monde, qui l'empêche d'être dans la fiction. Alors que rien ne devrait empêcher, finalement, d'écrire de la fiction, puisque la fiction, c'est le produit de son imagination.
Il y a une de mes phrases favorites de Franz Kafka, et Dieu sait que j'en ai des tonnes, qui dit « C'est la même chose qui m'a toujours empêché d'écrire et qui rend possible que j'écrive. » Et je crois que c'est vrai pour à peu près tous les écrivains. C'est la même chose. Donc c'est la soi-disant réalité, d'une certaine façon, on peut dire, qui empêche Anna d'écrire et Doris Lessing, et également qui rend nécessaire cette écriture. Et d'ailleurs, sa psychanalyste, qu'elle appelle Mame Sugar, je ne sais plus, qu'un truc comme ça, lui explique très bien, elle lui dit tu écris parce que tu ne sais pas vivre. Et ça, j'en suis absolument convaincue. Je pense que les écrivains sont des gens qui ne savent pas vivre.
Donc vous le ressentez aussi.
Bien entendu.
Écoutez la compagnie des auteurs sur France Culture et je suis en compagnie à la fois, quelle chance, de Josiane Savigno et de Geneviève Brisac. Geneviève Brisac, vous avez écrit ce livre « Dans les yeux des autres » qui est un hommage appuyé, je dirais, direct à Doris Lessing, puisque vous reprenez, rien que ça, vous lui volez d'une certaine façon ses personnages du carnet d'or, Anna et Molly. C'est quand même un acte extrêmement fort d'un écrivain par rapport à un autre écrivain.
C'était un acte joueur, hein, surtout d'autant que j'ai toujours soupçonné que elle-même, Doris Lessing, en prenant ses prénoms de Anna et Molly, les avait elle-même empruntés, probablement à Joyce ou à je ne sais qui, peut-être à Joyce, les deux d'ailleurs, à Joyce et Joyce. Mais et je pense que les écrivains font toujours comme ça.
Mais là, vous avez repris aussi l'idée des carnets.
Oui, absolument. Oui, en fait, je cherchais à faire un roman politique en depuis très 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 longtemps et je ne voyais pas du tout comment faire. Et ce qu'elle explique très bien d'ailleurs, il fallait l'accroche, il fallait que quelque chose prenne, un précipité, il faut un précipité pour pouvoir écrire un livre. Et un jour j'ai eu, je ne sais plus comment d'ailleurs, cette idée du carnet d'or et des différents carnets que mon personnage, Anna Jacobs, donc je peux, commencerait à...
Ils sont à Paris, ils ne sont pas à Londres, il y a quelques différences.
Et c'est très joli la scène du carnet d'or où elle étale les quatre carnets, il y a des moments comme ça. Et donc, moi je l'ai installé à Issy-les-Moulineaux.
C'est presque comme Londres en fait, Swinging Issy-les-Moulineaux.
C'est proche de Londres. Et elle a commencé, et donc Molly du coup, elle est devenue médecin. Enfin bref, j'ai procédé à certains. Et puis elles ont vécu mes 68 au lieu de vivre les années 50, ce qui était un petit peu normal.
Ça ne vous a pas impressionné quand même de vous mettre dans les pattes de Doris Lessing, de reprendre ce même dispositif? Vous n'avez pas eu peur finalement?
J'ai pas eu peur de ça du tout. D'abord, c'est vraiment pas. D'abord, j'ai extrêmement conscience des différences radicales qu'il y a entre ma manière d'écrire et celle de Doris Lessing. Et puis, au contraire, c'est très difficile pour une femme de trouver des grandes sœurs ou mères ou figures féminines.
Virginia Woolf, qui était peut-être une mère aussi pour Doris Lessing.
Je sais pas.
Dans le rapport entre les hommes et les femmes, dans l'exploration formelle,
il y a quand même peut-être... Oui, c'est vrai, c'est tout à fait envisageable. Et d'ailleurs, je m'appuie beaucoup sur Virginia Woolf tout le temps aussi. Mais il n'y en a pas tant que ça, alors que pour un garçon... Il y en a, si tant est d'ailleurs que ce soit très justifié de s'appuyer sur des modèles genrés, mais en tout cas, c'est évident qu'il y a une identification possible.
Alors, il nous reste 5 minutes, Geneviève Brisac. Vous avez prévu de dire beaucoup de choses, mais malheureusement, l'heure tourne. Est-ce que vous voulez nous lire un extrait du prix Nobel, comme vous l'aviez prévu?
Absolument. Alors, je vais faire d'abord une toute petite publicité pour cet énorme ouvrage, une coproduction France Culture Flammarion,
de Gilles Dolâtre,
et qui, je ne sais pas s'il a été actualisé, je l'espère, sûrement d'ailleurs.
Tous les discours du prix Nobel.
Voilà, de tous les prix Nobel depuis le premier. Et comme en général, les écrivains font attention à ce qu'ils écrivent pour le prix Nobel, ça paraît normal. Donc ça fait un ensemble de textes absolument géniaux. Et celui de Doris Lessing est spécialement génial.
Il est très beau, en effet.
Je l'adore. Et donc, alors elle parle de la chose suivante. Elle parle de la lecture et de la lecture en Afrique. Et il est là-dessus, son discours. Alors elle commence comme c'est quelqu'un qui regarde vers l'avant, largement autant que vers l'arrière. Elle dit « Nous sommes dans une culture à fragmentation ». Où nos certitudes datant d'il y a seulement quelques décennies sont remises en cause. On se croirait à la télé chaque soir, là. Il est fréquent que les jeunes hommes et les jeunes femmes qui ont bénéficié d'années d'études ne sachent rien du monde, n'aient rien lu, ne connaissent qu'une seule spécialité, les ordinateurs, par exemple. Alors, elle développe longuement les rapports entre l'imprimerie et les ordinateurs.
Elle a peut-être pas bien compris quand même Internet, en revanche. Il y a quelque chose dans ce discours.
Je sais pas, sinon je crois qu'elle a très, très bien compris.
Sur Internet.
Mais pas du tout, absolument pas. Elle est absolument pas réac. Elle parle d'un truc. Non, je crois pas du tout,
Non, bon.
Non, non.
J'ai mal lu.
Non, en revanche, elle parle de quelque chose. Il y a un type qui prend l'avion, voyez, qui laisse un morceau d'Anna Karenine dans une station-service. Mm-hmm. C'est ça le truc que j'aime. Et dans cette station-service, il y a une jeune indienne qui arrive, enceinte, très maigre, mourant de soif, et qui prend ce paquet de feuilles d'Anna Karenine, qui avait l'air d'avoir été arrachée d'un livre. Elle lit lentement, formant les mots avec ses lèvres. Le livre semble difficile. C'est une jeune femme avec deux enfants en bas âge, accrochée à ses jambes. Elle est enceinte. L'Indien est peiné parce que le voile de sa visiteuse, normalement blanc, est jaune de poussière. De la poussière recouvre ses seins et ses bras. Cet homme souffre de voir ses files d'acheteurs tous assoiffés. Il n'aura pas assez d'eau pour eux. Il est en colère. Il sait que des gens meurent de soif derrière les nuages de poussière. Cet homme est curieux. Il demande à la jeune femme « Mais que lis-tu ?» Ça parle de la Russie, répond-elle. Sais-tu où se trouve la Russie? Il ne le sait pas lui-même. La jeune mère le regarde bien en face, et même si elle a les yeux rougis par la poussière, elle dit « J'étais la meilleure de ma classe. Mon professeur l'a dit, la meilleure. » La jeune femme reprend sa lecture, elle veut terminer son paragraphe. L'Indien sait qu'il ne devrait pas, bon, etc., etc. Je ne peux absolument pas vous lire tout, mais ce qui est formidable, c'est qu'en fait, elle va... Ah oui, c'est juste ça. Le paragraphe la fascine. Elle qui lit déjà lentement, elle relit. Avec son fichu blanc tranchant sur ses cheveux noirs, au milieu de cette bande d'enfants dont elle partageait de bon cœur les ébats, Varinka, tout émue à la pensée qu'un homme qui ne lui déplaisait pas allait lui demander sa main, paraissait plus attrayante que jamais, etc. La jeune fille se demande si elle-même, elle ne va pas se marier, en fait, et si elle-même, elle ne va pas trouver un jeune homme comme cette jeune Russe. Et l'identification, elle fonctionne à ce niveau-là, et c'est ça la lecture. Ça passe, ça traverse les océans, évidemment, les terres, et une petite épaisseur de feuilles permet à une jeune fille de marcher à pied jusqu'à la bibliothèque alors qu'elle meurt de soif.
Donc c'est tout simplement, pourrait-on dire, mais ça n'est pas simple en réalité, un plaidoyer pour la lecture et rappeler aussi la chance qu'on a de pouvoir lire alors qu'il y a beaucoup d'endroits sur la planète où on ne peut tout simplement pas lire et où on ne peut tout simplement pas devenir écrivain. Merci Geneviève Brisac. Et merci également Josiane Savigno d'être venue nous voir toutes les deux aujourd'hui. Geneviève Brisac, je rappelle que vous venez de faire paraître chez Grasset, Vie de ma voisine. Demain, c'est de l'écriture autobiographique et de la place de la pensée postcoloniale dans l'œuvre de Doris Lessing qu'il sera question dans la compagnie des auteurs. Nous serons avec l'universitaire Catherine Bernard pour en parler. Mais tout de suite, on retrouve Jacques Bonnafé. Il entame aujourd'hui une semaine intitulée « Courrier et papillon ».
Bonjour. La poésie hausse le ton. Elle sort du silence où elle est tenue, réclame droit de cité, s'insurge contre le manque de visibilité et de moyens qui la relèguent dans l'ombre et l'oubli. Soulèvement de la poésie. Résistance. C'est sa richesse. Elle ne fait pas commerce des images, elle ne marchande pas les mots. La poésie travaille, elle creuse la langue et le réel. Elle les rejoue tous les jours, elle est une et elle est plurielle. Elle rencontre d'autres arts, respire, inspire, ranime, elle est au cœur. La poésie est politique, elle va vers tous, parle à tous, prend la parole, rend la parole, la tend. La poésie est tout le monde, un monde sans poésie n'est une maison pour personne. Ces mots sont extraits du manifeste du 35e marché de la poésie, les états généraux de la poésie, invités d'honneur 2017. Alors, ça nous fait penser une chose, c'est que s'il y a marché, vous voyez, ben, c'est qu'il y a des affaires. Et s'il y a des affaires, ben, c'est qu'il y a des produits, et puis des bons, puis des gens qui en vivent et qui en vivent bien. Et qu'il n'est donc pas nécessaire de remplacer leur beurre et puis leur poule ou leur canard et leurs légumes par autre chose sous prétexte que ça ferait vendre de la poésie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien, je me suis. Et là, dans leur manifeste, les gars, ils disent que nous déclarons la poésie ouverte. Ah ben, ça donne envie d'aller voir. Qu'est-ce qu'il y aurait dans tout ça? Moi, je remue ce qui est arrivé dans le courrier comme ça. Il y aurait, ben, par exemple, des maisons de la poésie qui font de la poésie. Ben, c'est pas si évident que ça. Des maisons de la poésie qui font que de la poésie, sans vedette, sans produit d'appel. La poésie, ben, sans best-seller, quoi. C'est une idée. Alors, je remue comme ça, puis je tombe sur... Poème en cavale. Ah, mais c'est le programme de la Maison de la Poésie de Nantes, effectivement, avec un nombre d'auteurs invités assez considérable, étrangers et français. Marius Loris, Guillaume Condello et Ron Silliman, Andréa Lurso, Gérard Massé, invité aussi pour une série qui s'appelle Poèmes en cavale. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore? Ah, une protestation. Oui, ça vient de la Biennale des Poètes en Val-de-Marne. C'est une des plus anciennes structures dédiées à la poésie. Mais, évidemment, elle est menacée. Et Dieu sait si nous, ici, nous avons eu recours à leurs archives. Et puis, quoi d'autre encore? Ah ben, là, je tombe sur des revues importantes dans la poésie qui sont arrivées par le courrier. FPM, Festival Permanent des Mots. Et j'ouvre la revue numéro 10, je tombe sur Permanence, tenue par Jean-Claude Goiry. Toujours déplacer le centre. Parfois la tête, parfois les mains, le plafond aussi, sans oublier cet au-delà des rebords, là où tout flanche d'un coup dans l'inconnu. Parfois la tête, parfois les mains, le sol aussi, cet endroit exact. Où plus rien n'est précis, toujours déplacer le centre, donc ne jamais le figer et le laisser moisir, durer dans le mouvement, un jour ici, un autre là, et le centre toujours ailleurs, donc parfois la tête, parfois les mains, les fenêtres aussi, et aussi loin que le centre se déplace, aussi fort le corps ramasse tout vers un point ductile propre, à laisser filer le centre par ailleurs, partout où il peut être, partout où il est accueilli, partout où ça surgit, parfois la tête, parfois les mains, et les portes aussi, il faut voir comment il passe par les serrures, le centre, habile et véloce quand il ouvre une porte, c'est toujours pour toujours.
Merci Jacques Bonafé pour ces extraits de textes poétiques.